des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Je ne vous parlerai pas de long en large du confinement, c'est un mot de toute façon qu'on ne veut plus entendre, mais sachez que moi je me suis déconfinée avec évidemment toutes les mesures de précaution qui s'imposent pour vous présenter tout l'été cette émission des livres plein les oreilles que vous savez que vous pouvez entendre à partir de midi le jeudi sur notre site ou via la télévision, votre câbleau distributeur. Sinon vous pouvez l'écouter n'importe quand ainsi que toutes les autres émissions de la chaîne Canal M, écoutez par balado, podcast et évidemment sur notre site canalm.org. Est-ce qu'on dit toujours ça, .org? Non, on dit plus ça. Hein. On dit livreaudio.canalm.com. Tu vois, j'ai perdu les habitudes en 2 mois. Qu'est-ce qu'on dit, mon petit Jean-Sébastien?
Alors, canalm.vuesetvoix.
Et bien voilà, alors aujourd'hui pour cette première émission que je suis tellement heureuse de venir vous présenter, je me demandais, j'avais envie de vous présenter quelqu'un qui ne vit que pour la lecture à haute voix. Il a une voix absolument fantastique. Il s'appelle Mathieu Farcy avec 2 T et 1 Y. Il lit beaucoup de littérature jeunesse, mais pas que ça. Et puis, en seconde partie, on va retrouver ensemble des voix récemment disparues. Eh oui, il faut aussi en parler de celle-ci. Mais d'abord, comme on a hâte d'entendre la voix de l'ami Mathieu Farcy de France, de Rouen, même de ma ville natale, on va écouter, tiens, Ouman, entendre ta voix.
Allô, salut, c'est moi, comment ça va? Je sais pas, je pensais à toi, j'appelle comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu deviens, toi, tu me racontes quoi? Au moins, ben moi ça va, des hauts, des bas. Machinalement, j'ai fait ton numéro. Souvent, je coupe avant que tu n'aies dit allô. J'appelais juste pour entendre ta voix, entendre ta voix. Je voulais juste entendre ta voix, entendre ta voix. J'ai vu Nicolas avec une nouvelle meuf, je savais pas. Et toi, toujours pas de gosse, t'en voulais 3. Ah bon, déjà le divorce, eh ben tu vois. Ce soir, machinalement, j'ai fait ton numéro. Souvent, je coupe avant que tu n'aies dit allô. J'appelais juste pour entendre ta voix, entendre ta voix. Je voulais juste entendre ta voix, entendre ta voix. Papa, mais ça viendra. Quoique le temps passe vite, plus vite qu'on ne croit. Si vite qu'on en oublie tous nos émois. Bien sûr, je sais très bien que tu ne reviendras pas. Ce soir, machinalement, j'ai fait ton numéro. Souvent, je coupe avant que tu n'aies dit allô. J'appelais juste pour entendre ta voix, entendre ta voix. Je voulais juste entendre.
C'est le soir. Nous sommes dans un petit bourg isolé en Normandie. Un endroit paisible. Un petit village au milieu des champs avec deux fermes et trois propriétés agricoles, son petit commerce de proximité, un café-tabac, une boulangerie, un garage et son établissement scolaire accueillant une classe pour chaque niveau de la petite section au CM2. La seule école présente sur 50 km. Mais ce soir, un événement insolite vient troubler la quiétude de ce petit village. Cinq individus sont aperçus dans la cour de l'école. Ils sont autour du bac à sable, le visage dissimulé sous une capuche, une lampe torche à la main. L'un d'eux se tient au centre, occupé à enterrer quelque chose. Les intrus sont déjà partis lorsque les gendarmes arrivent sur place en compagnie de Monsieur le maire. Sous le sable, les autorités découvrent le corps encore chaud d'un malheureux chat noir de taille adulte.
J'avais juste envie d'entendre cette voix-là et surtout de vous la présenter. Mathieu Farcy, bonjour.
Bonjour, Clotilde Fay.
C'est un plaisir, Mathieu, de vous recevoir à cette émission parce que bon, votre nom résonne souvent ici. C'est parce que il y a énormément de titres que vous avez enregistrés et qui se retrouvent sur le site, sur notre site de Livre Audio ici à Vues et Voix. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette émission avec vous avant que malheureusement les événements que nous savons arrivent. Mathieu Farcy, vous consacrez votre vie au travail avec la voix. C'est bien ça?
Ah oui, maintenant, oui. tant que j'ai de la voix, allons-y.
C'est vrai. Ah oui, mais c'est depuis toujours, ou parce que j'imagine, vous êtes comédien de formation, Mathieu.
Oui.
Et donc, depuis toujours, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes en allé vers la lecture à haute voix? Ça a toujours été une évidence?
Ah non, pas du tout. C'est assez récent. Ça date de 2014.
Okay.
Mon amie avait du mal à s'endormir et elle écoutait des livres audio. Et c'est comme ça que j'ai découvert le livre audio. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse ça. Et puis je m'y suis mis. J'ai enregistré quelques textes qu'elle écoutait pour s'endormir. Et puis, je me suis dit qu'en dehors d'avoir une voix soporifique, je pourrais faire quelque chose. Et puis, voilà, je l'ai travaillé.
Oui, et c'était ma prochaine question. Avoir une voix comme ça, ça se travaille, je veux dire, au départ, parce que vous avez ces graves merveilleux. On va l'entendre un petit peu plus tard avec d'autres extraits, mais vous êtes capable de moduler. Donc oui, ça se travaille.
Oui, ça se travaille. Alors j'ai dans ma jeunesse, j'ai fait du chant lyrique.
Ah, ok.
Donc j'ai appris toutes les bases. Du chant, donc la colonne d'air, tout le maintien,
ouais.
Travailler les cordes vocales, les différents exercices, et ça m'a pas quitté en fait. Donc quand j'en ai besoin, j'ai une piqûre de rappel, je refais mes exercices, et puis voilà.
Mais j'imagine qu'avec une voix comme celle-ci, d'abord, est-ce que vous chantez encore à l'occasion ou juste sous la douche?
Sous la douche et pour faire enrager les voisins.
Oui, parce que quand on entend le timbre de voix que vous avez, Mathieu, on ne doute pas. Vous étiez quoi, baryton ou basse même?
Alors, une de mes amies qui est prof de chant m'a dit que j'étais basse montante parce que j'ai une tessiture très large, j'ai à peu près 5 octaves.
5 octaves? Et vous n'avez pas eu envie de continuer. Vous avez mis un terme à ça, vous avez dit non, moi à partir de maintenant, je lis.
Oui, j'ai pas persévéré dans cette voie-là. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir vraiment la technique de respiration, comme je vous disais, la colonne d'air. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve partout dans les exercices un petit peu de yoga, de tai chi,
ouais.
Dans la flûte à bec, enfin partout.
Ouais, ouais.
Donc c'est quelque chose qui est très utile au quotidien.
Alors, la technique, oui, mais qu'est-ce qui fait un bon lecteur, Mathieu?
Ah, ça, c'est une question qui est un peu difficile parce que les avis divergent forcément en fonction de chaque sensibilité.
Ouais, c'est vrai.
Mais à avoir écouté pas mal d'autres comédiens, lecteurs, d'autres lecteurs aussi qui sont passionnés, dont vous, Clotilde.
Ouais. Ouais.
Il y a un mot qui m'est venu, c'est la générosité avant
tout.
Oui. C'est-à-dire, c'est plaisir, l'envie de partager quelque chose et de le faire sans avoir peur de l'autre, juste dans le avoir envie de transmettre quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous touche.
Ne jamais oublier peut-être que dès l'instant qu'on s'exprime, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir ces mots-là. Ça se joue à deux.
Oui.
C'est une vérité de la police. Mais malheureusement, c'est pas toujours vrai en studio.
Hein? Bah oui, parce que ça dépend de la manière dont on va le dire et pourquoi on le dit. Mm-hmm. Est-ce que je vais lire un livre audio en essayant de montrer que je suis le meilleur lecteur ou est-ce que je vais le lire parce que je veux vraiment que tu comprennes le texte.
Exactement. Mathieu Farcy, vous ne faites pas tout seul. Hein. On a entendu dans le premier extrait, d'ailleurs je voudrais préciser que c'est le texte qui s'appelle Océane. C'est vous qui l'avez écrit? J'ai pas vu le nom de l'auteur.
Oui, quand je ne mets pas le nom de l'auteur, c'est moi.
C'est ça. Alors moi, j'avais bien écrit sur ma feuille de route « De et par Mathieu Farcy ». Ben bravo. Mais il y a de l'ajout musical. Et ça, je sais que vous teniez à ce qu'on en parle et c'est normal. Elle s'appelle Renée Grant, ou on prononce comme ça ?
Grant, oui.
Grant,
tout à fait.
D'accord.
Renée Grant.
Alors donc, c'est votre aide et c'est elle qui fait tout l'habillage ?
Oui, parce qu'en fait, avec elle, on se comprend assez bien, on a une sensibilité similaire.
Ouais.
Donc voilà, je lui passe un texte, en général, elle comprend ce que je veux, elle propose des choses. Ouais. Et voilà, après, je peux lui dire un petit peu plus de ci ou un petit peu plus de là.
Ouais.
Mais en général, elle met dans le mille.
Mathieu Farcy.
Je suis content, oui.
Oui, ben écoutez, c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est un régal à entendre, hein, tout ce que vous faites, Mathieu. Puis je ne suis pas en train de passer la brosse à reluire, là. C'est un régal. De toute façon, il suffit d'entendre votre voix. Ce n'est pas par hasard si vous faites cette émission-là aujourd'hui. Mathieu Farcy, en quelques mots, je voudrais que vous nous parliez de Dorothée Piatek. On va entendre un extrait de Bleu et Perles de pluie. C'est également sur notre site Vues et Voix, Dorothée Piatek qui est de Rouen. Vous êtes de Rouen, je suis de Rouen,
oui.
Coup de dent.
Oui.
Rouen, est-ce que Rouen est la ville de la lecture à haute voix?
Ah, faudrait que ça le devienne.
Faudrait que je revienne aussi. Non, mais c'est ça. Donc Dorothée Piatek, elle est de Rouen aussi. Elle est normande.
Tout à fait. Ah oui, on est voisins à quelques
en
centaines
plus,
de mètres.
En face de la cathédrale.
Oui, dans le quartier en tous les cas.
C'est vraiment très très laid comme quartier. Non mais écoutez, si un jour les gens qui nous écoutent vont à Rouen, allez là-bas. Et en plus Mathieu a l'habitude de nous faire entendre quelques airs du Carillon qui est fort célèbre là-bas. Il nous met ça sur FB si vous voyez ce que je veux dire et c'est toujours agréable. On parlait de Dorothée Piatek. Permettez que je diffuse un autre extrait de votre jolie voix et de ce joli texte qu'est Bleu et Perles de pluie.
Bleu et perles d'eau. Un conte de Dorothée Piatek, lu par Mathieu Farcy. Musique et sound design de René Grant. La vie, c'est demain, aujourd'hui, maintenant, à la seconde qu'elle est entre vos mains. Regardez. Regardez cette merveille, si belle, si fragile. Regardez-la de plus près. Voyez ces insectes qui serpentent sous vos pieds, ces hordes de chevaux sauvages qui s'élancent dans la plaine, ces moutons gloutons qui broutent l'herbe des montagnes, ces poissons luisants qui filent dans les eaux douces des rivières, ces oiseaux aux chants divins qui égayent vos matins, et cette libellule aux ailes dorées qui se pose sur votre main. Regardez. Bleu, votre terre, qui a fait naître des lits d'herbes sauvages sur lesquels s'allonger pour admirer le ciel et rêver.
Voyez ces nuages qui courent, chahutent et dansent dans son ciel. Oh, celui-ci a la forme d'une tête de dragon. Celui-là d'un chien. Et lui, il ressemble à un train qui file vers l'espace. Je pourrais presque les toucher. Ils sont cotonneux et semblent si doux. Ils valsent sous le vent, se transforment et disparaissent.
C'est tellement beau, Mathieu. Moi, je pense à tous les enfants qui ont la chance d'écouter ça, mais... C'est vraiment magnifique. Je voyais mon ami Jean-Sébastien en face de moi qui est en régie et qui a deux jeunes enfants et je sais qu'à quoi il pensait. Exactement. D'ailleurs, moi j'ai dit perles de pluie, mais c'est perles d'eau ou perles de pluie?
Or, ça doit être perles d'eau. J'ai effectivement une confusion. Je crois que sur la pochette, c'est écrit perles de pluie. Et puis, quand j'ai enregistré le texte, à mon avis, le titre devait être perles d'eau. Vous savez, des fois, ça peut changer.
Ah, bon, bon,
donc,
bon.
Voilà.
Alors, je suis vraiment...
Donc, les deux titres sont bons.
Bon, d'accord. Bon, alors, comme ça, vous me soulagez. Qu'est-ce que c'est la boîte bleue, Mathieu Farcini?
Alors, la boîte bleue, c'est une sorte de mini studio que j'ai conçu pour un festival. La région Normandie a créé un festival l'année dernière et comme je fais de deux voyages et des enregistrements, ils m'ont offert un stand pendant 3 jours. Mmh. Alors j'ai accepté tout de suite. J'ai sauté sur l'occasion et puis après je me suis demandé ce que j'allais faire dedans. l'idée de créer la boîte bleue est venue. Je voulais avoir un studio dans lequel je puisse reproduire justement des contes sonorisés et que le public puisse écouter au casque le rendu final.
En direct.
C'est-à-dire que je lis, oui, tout à fait, je lis en direct les effets sonores, la musique est diffusée, mixée en direct, ainsi que les effets de réverbération et autres quand il y en a, c'est envoyé et mixé en direct dans le casque.
C'est fantastique. Quelle belle idée. Et c'est quelque chose que vous transportez, hein. Vous allez dans les écoles, vous allez dans les bibliothèques, Mathieu Farcini?
Ça peut aller dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les foires. Donc quand c'est un festival en milieu bruité, j'en porte vraiment toute une boîte. Mm-hmm. Pour avoir une petite isolation. Et c'est, comme elle est bleue, c'est le public qui a nommé ça la boîte bleue. Je trouvais pas de nom, mais on entendait dans le couloir, vous avez été voir la boîte bleue? Ah bon, bah, c'est super comme nom, ça.
Ah, c'est génial. Mais j'ai tellement hâte qu'on puisse reprendre l'avion. Est-ce que ça se déménagerait en avion, cette affaire-là? Par exemple,
si on vous invite,
par exemple, bon, je dis ça par hasard, comme ça, hein. Bah, si on vous dit, allez, venez, venez présenter ça à Montréal, est-ce que ça se déplace facilement?
Oui, ça prendrait un peu de il y a une solution qui est très légère, où je suis pas obligé de prendre la cabine, je prends juste mon rack avec tout mon matériel dedans, hein, le moteur.
Ah oui.
Si c'est toute la cabine, oui, ça prend pas beaucoup de place, à condition de laisser les panneaux, parce que je peux aussi garder toute la structure métallique qui porte les panneaux que je mets habituellement, et dessus je tends des
couvertures, des choses comme ça. Vous aimez beaucoup toutes les histoires qui font peur, hein. Vous avez une collection, même les collections des contes à faire peur, qui se retrouvent d'ailleurs quasiment tous, si je ne m'abuse, hein, sur notre site, livreaudio.vusezvoix.com. Et il y a entre autres, parmi ces contes, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mur étrange. On doit ce texte-là à Michael Ferron, c'est bien ça?
Tout à fait, encore un Rouennais. Ah,
non. Oh, si. Bah écoutez. Alors, je sais pas, on va faire un package deal, on va mettre dans un avion quand on pourra traverser l'Atlantique. Je vous propose, cher Mathieu, qu'on écoute un extrait de Murmure étrange.
Cet objet est commun, tellement simple et vite lu. Qui pourrait croire qu'il aura fallu une énergie considérable de la part de son auteur pour que les mots parviennent jusqu'à nous? Qui pourrait croire que certains ouvrages ont gardé la mémoire de cette énergie et qu'un jour, cette mémoire pourrait donner vie au livre, qu'il deviendrait conscient, qu'en prêtant une oreille attentive, nous pourrions les entendre, tels des fantômes oubliés?
Un point à la ligne. Murmure étrange, la voix de Mathieu Farcy que j'ai au bout du fil de France pour vous présenter toutes ces collections qui sont lues par Mathieu et qu'on retrouve entre autres sur le site livreaudio.vusezvoix.com. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de nos auditeurs, Mathieu, sur le fait que vous ne lisez pas que pour les enfants. Vous avez entre autres déjà enregistré un livre pour les adultes.
Oui, j'en ai deux. J'en ai un, c'est Le Livre qui parle. Ça s'appelle Les Enfants de Gaillan. C'est écrit par Emmanuel Prost et ça se passe pendant la Première Guerre mondiale en France, dans le nord de la France. Et le deuxième, c'est Le Prince des Marais qui est chez Audiolib.
Ok.
De Pat Conroy.
Le Livre qui parle, c'est plutôt sympa. Ça, c'est une autre plateforme. Ce sont des gens qui font eux-mêmes, qui enregistrent des livres audio et qui les diffusent.
Alors, Le Livre qui parle, je les connais depuis que je suis tout petit, tout gamin.
C'est vrai?
Ils enregistraient déjà des livres audio dans les années 80, si ma mémoire est bonne, sur cassette.
Oui. Sur
Et
cassette.
Puis, oui. Bah oui, à l'époque, parce que c'était un format longue durée.
Oui.
Donc, pour un livre audio, c'était parfait, ça.
Oui.
Et on n'avait pas l'UMP3.
Mais non, c'est ça. On n'avait même pas le date, encore rien, et ni le CD. Non, c'est sûr, c'est sûr.
Et la cassette permettait d'avoir des longues durées. Elle permettait, je crois qu'on pouvait avoir jusqu'à 180 minutes pour les plus grandes cassettes, 180 minutes d'écoute.
À écouter avec un crayon, parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand ça commençait à déconner un petit peu, ça prenait le crayon pour rembobiner. Jean-Sébastien, lui, il n'a pas connu ça. Si, il a connu ça avant de rembobiner.
Oui.
Ça a été... Oh là là.
C'était une horreur, ça. Quand la bande était mangée dans le Walkman, il fallait la ressortir, qu'elle était toute pliée. Oh, oui.
Alors, je vous propose d'entendre un extrait de Les Enfants de Gaillan. J'en ai écouté un bon bout, évidemment, hein, pour préparer cette émission-là. Un sujet pas facile. On est, entre autres, là, dans un hôpital avec deux jeunes filles qui accueillent ceux qu'on appelait les gueules de bois, qui étaient les soldats qui revenaient la plupart du temps dévisagés par un éclat d'obus ou autre. Et je vous propose d'écouter Mathieu Farcy qui fait, encore une fois, là, toutes les voix, la narration et les deux jeunes femmes.
Bénédicte, ça va ? Elle ne fit que deviner la silhouette qui se redressait, mais comprit que sa jeune collègue essuyait une larme. « Tu as réussi à dormir ?» reprit Hélène. « Non, pas vraiment, Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal d'avoir peur le premier jour. Tu as déjà eu l'occasion de soigner des baveux ?»«
Des quoi ?»«
Des baveux. N'y vois rien de péjoratif, c'est comme ça que nos gueules cassées s'appellent elles-mêmes. »«
Non, je viens juste d'arriver. Je voulais me rendre utile. J'ai proposé mes services et j'ai été prise au Val-de-Grâce. »
Toi aussi, tu es infirmière volontaire ?
Non, répondit Hélène. Moi, je suis passée par l'école de la Salpêtrière.
Moi aussi, j'aurais bien aimé faire une école, susurra Bénédicte. Mais mon père est mineur et on n'avait pas les moyens.
Oh, il ne devait pas y avoir plus de sous chez moi, tu sais.
Et puis l'école des Bleus n'a rien à voir avec toutes ces écoles privées réservées aux filles de bonne famille. On ne cherchait pas à faire de nous des nurses, comme ils disent dans le beau monde. La Salpêtrière est gérée par l'assistance publique. On nous faisait d'ailleurs bien comprendre que nous ne serions que d'éternels auxiliaires. J'ai même eu un professeur qui ne cachait pas vouloir faire de nous des ménagères éclairées. Elle disait qu'elle allait nous apprendre à manier scientifiquement la serpillière humide.
C'était pourtant du vrai bourrage de crâne, tu peux me croire.
Et là, je m'aperçois, j'ai dit les gueules de bois. Faut vraiment que j'arrête le rosé. Les gueules cassées, ça. Mais alors, Mathieu Farcy, en dehors de chez Vues et Voix, où on trouve notamment la véritable légende de Jack aux lanternes, Nuit de terreur, une histoire de croque-mitaine, Alexandre et la Dame de Pique, la série sur le gobelin aussi, Normand, Murmures étranges. Où est-ce qu'on peut entendre vos livres ? Est-ce qu'ils sont distribués, par exemple, en France ? Je veux dire, par nous, évidemment, puisque nous, comme on est une plateforme, on peut nous retrouver partout. Mais est-ce que vous êtes également édité, soutenu en France ?
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Il y a plusieurs librairies en ligne qui distribuent les livres audio et je suis sur les principales plateformes également de vente de livres audio.
Bon. Question peut-être indiscrète, je ne l'avais pas mis dans la liste, mais vous en vivez ?
Mathieu ? Pas que de ça, de mon activité de comédien, oui, et puis pas que du livre audio.
Non, c'est
tout,
ça.
Oui.
Bon, mais, voilà. Mais quand on rajoute le doublage, j'imagine, et les choses comme ça, quoi, ça...
Oui, j'ai des petites voix de dessin animé, j'ai des...
que j'aimerais faire ça, j'adorerais faire ça. Qu'est-ce qu'il y a à venir ? Quels sont les projets sur la table pour vous, que ce soit en France ou même ici avec Vues et Voix ? Qu'est-ce qu'on devrait retrouver prochainement sur notre site ?
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai un livre audio qui va apparaître chez vous bientôt.
Le Babou, non, c'est ça ? Parce que je me demande si
c'est le même.
Non. Ok.
C'est un autre, vraiment pour le Québec. Donc, je reviendrai vers vous quand je saurai.
D'accord.
Si j'ai pas envie
d'accord.
de m'avancer avant que le marketing m'ait dit oui, tu peux
le dire. Oui. Je comprends tout à fait, mon ami. Puis, pardon de vous avoir posé cette question-là.
Ah non, vous en faites pas, ça me fait plaisir.
D'accord. Écoutez, Mathieu, c'est un réel régal que d'entendre le travail que vous faites pour nos jeunes avec ces livres audio-là, mais également donc pour les adultes, comme on vient de l'entendre avec La Voix qui parle et Audible. Je voudrais vous remercier infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cette émission. Vous savez que c'est la seule, on pense, en tout cas on n'en connaît pas d'autres, qui se consacre aux livres audio et vous y méritiez grandement votre place.
Bah écoutez, merci beaucoup. Moi, ça a été un grand plaisir, un grand honneur aussi de vous entendre et puis d'avoir pu vous découvrir aussi. Et je suis très content que vous m'ayez appelé. Je passe un bonjour à tout le monde d'ici, de la France.
D'accord, au Québec. Il a été entendu, Mathieu. Merci infiniment. Prenez soin de vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Restez là, il y a une seconde partie à l'émission. Immanquable. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie, je vais vous présenter... tout va dépendre un petit peu du temps que je vais prendre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, honnêtement, dans cette seconde partie. Il est possible que je vous présente une nouvelle... elle n'est pas si nouvelle que ça, mais une autre plateforme de livres audio. On me demande encore très souvent, mais en dehors de Vues et Voix, où est-ce qu'on peut... Alors, je vais me faire un plaisir tout au long de l'été de vous présenter plusieurs plateformes. Il est possible aussi que je vous fasse entendre un extrait d'une nouveauté signée Louise Penny et lue par Raymond Cloutier, le comédien québécois. Je vais aussi vous donner des nouvelles d'une comédienne française qui met maintenant sa voix au service du conte, elle aussi. C'est Marlène Jobert, la délicieuse Marlène Jobert, cette femme qui a la voix pour faire de la lecture. Et c'est, en tout cas, on craque complètement, un petit peu comme pour Mathieu Farcy, que j'ai accueilli en première demi-heure. Mais d'abord, mes amis, on va se souvenir ensemble de quelques voix mémorables qui nous ont quittés récemment. Je pense à celle de Monique Mercure, Michel Rossignol. Ces deux-là, on peut les entendre sur le livre audio consacré aux Belles-Sœurs, l'œuvre qui a tout changé de Mario Girard, enregistrée dans nos studios l'an dernier. Et puis, on va commencer par ces voix uniques, qu'était celle de Michel Piccoli, Romy Schneider, portant les mots de Jean-Loup Dabadi.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne Comme une
t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène.
Quelle chanson. Elle est... C'est une chanson que l'on doit à Jean-Loup Dabadie, décédé il y a maintenant 2 semaines, à l'âge de 81 ans, après avoir écrit, entre autres, plus de 300 chansons. Pas que, il a aussi, entre autres, scénarisé la chanson extraite du film « Les choses de la vie », musique de Philippe Sard, et bien sûr un texte de Jean-Loup Dabadie. Oui, l'homme aux 300 chansons, c'est incroyable. Il a écrit, d'ailleurs, en fait, l'idée serait de dire pour qui n'a-t-il pas écrit en Europe, notamment, bien sûr, pour Julien Clerc. On pense à la chanson « Femme, je vous aime ». D'ailleurs, il a dit « Femme, je vous aime ». C'est la chanson qui m'a pris le plus de temps à écrire parce que j'ai séché longtemps. Julien Clerc m'avait joué la mélodie juste avant les vacances d'été dans un studio de Bagnolet, mais il n'avait pas vraiment l'intention de l'enregistrer. Je lui ai dit « Bon, mets-la quand même sur une cassette. » Tiens, la cassette qui revient. Et puis, finalement, donc, il avait écrit ce texte-là, il paraît qu'il écoutait en boucle la musique, puis il n'arrivait pas à trouver le mot. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Puis finalement, un jour, lui est venue Femme. Puis il dit, mais Femme, je vous aime, bien sûr, c'était évident. Et on sait le succès qu'a eu cette chanson-là. Je pense aussi à la chanson qui s'appelle « Le petit garçon » pour Serge Reggiani. C'est sûrement, faut remonter en 1967, lorsqu'il a écrit ce texte-là. Je me demande si d'ailleurs c'est pas l'une ou voire sa première chanson qu'il a écrite. À cette époque, il raconte pour Paris Match, qui est sorti il y a 2 semaines, qu'il avait écrit une pièce et qu'il écrivait des articles. Et qu'un jour, il avait reçu un coup de téléphone. « Bonjour, c'est Serge Reggiani, je vous appelle parce que je voudrais que vous m'écriviez une chanson. » Il avait le pif quand même à Reggiani. Simplement, en allant voir les pièces signées Jean-Loup Dabadie et en lisant les articles, il s'est dit « Ce gars-là, il doit savoir écrire des chansons. » Alors voilà, parce qu'il voulait se lancer dans la chanson. Et Reggiani, qui à l'époque était connu comme comédien, il voulait faire de la scène. Et il dit toujours dans cet article de Paris Match Dabadie, mais bon, on était un vendredi soir, il voulait la nouvelle chanson pour le mardi suivant. Parce que c'est à ce moment-là qu'il devait commencer Reggiani en première partie de Barbara à Bobino. Et il a dit, Dabadie, c'est la chanson que j'ai écrite le plus rapidement de ma vie. Comme j'avais une formation de dramaturge, je n'ai eu que le réflexe de me raccrocher à l'image que j'avais de ce grand acteur. J'ai écrit cette chanson en forme de scénario. Et j'ai toujours fait ça dans ma vie. Le petit garçon, c'est l'histoire d'un homme qui vient d'être quitté par sa femme, qui se retrouve seul avec son petit garçon. La musique a été composée le lendemain Donc tout ça s'est fait en 48 heures, musique de Jacques Datin. Voilà, vous vous dites, mais pourquoi évoquer la carrière et la mort de Jean-Loup Dabadie ici, à l'émission des livres plein les oreilles, qui est consacrée au livre audio? Eh bien parce que pour moi, Dabadie, c'était d'abord non seulement un homme de cœur, mais un homme de mots et un homme de lettres, suffisamment pour être à l'Académie française quand même, aux côtés de Dany Laferrière. Et puis une chanson de vous à moi, quand c'est bien écrit, quand l'histoire est bonne. Est-ce autre chose qu'un livre audio avec de la musique ?
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment, tu vas voir, ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seuls. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
Émotion maintenant encore à l'émission des livres plein les oreilles. Il y a exactement un an, à la même époque, je commençais à travailler sur l'enregistrement du livre audio tiré du livre de Mario Girard, Les Belles-Sœurs, l'œuvre qui a tout changé. Et dès le mois de mai, j'avais commencé à prendre contact avec une petite trentaine de personnes qui correspondent à toutes celles et tous ceux, comédiens, auteurs, comédiennes, qui ont participé à ce livre-là en offrant leur témoignage. Parmi les personnes que j'ai appelées, il y avait notamment Monique Mercure. Monique Mercure qui avait dit oui, qui ne pouvait pas se déplacer. Par contre, et c'était Louis Garon, notre coordonnateur ici à la radio, qui était allé à sa rencontre. Il avait d'ailleurs été très ému. Je vais vous faire entendre ce qu'elle lui avait dit. En fait, c'est le témoignage qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre imprimé et qu'on retrouve aussi dans le livre audio. Je vais vous faire entendre ça. Écoutez bien sa voix. Lorsque j'ai appris que Mme Mercure était partie d'un cancer de la gorge, les bras m'en sont tombés. Cette voix-là n'avait pas l'âge qu'elle avait pourtant quand elle est partie.
Rose m'a aussi donné la possibilité d'utiliser pour la première fois la langue montréalaise. L'œuvre a permis à ces 15 femmes de se raconter et à Rose, que j'interprétais, de ne plus cacher son désespoir avec des farces plates, mais de l'exposer au grand jour dans le magnifique monologue sur le maudit cul. Combien de femmes de cette époque auraient pu s'approprier ce monologue ? Trembler a un immense talent d'écriture que j'admire énormément. Il sait émouvoir en sondant le cœur et l'âme des femmes. Son œuvre fut pour moi une véritable école. Monique Mercure.
Et puis, il y a cette petite femme toute frêle que j'ai vue arriver dans le studio de Vues et Voix au bras de son compagnon qui l'a amenée, car oui, Michel Rossignol n'a jamais voulu enregistrer ça par téléphone où elle a dit non, je me déplace pour trembler. Pour vous, je me déplace. Et j'ai vu arriver, je vous dis, cette petite femme frêle, mais elle aussi qui avait encore une très très belle énergie et qui avait, comme Madame Mercure d'ailleurs, le désir de faire ça tout à fait professionnellement. C'est donc, elle s'est reprise à plusieurs fois pour nous lire Madame Rossignol, qui, je le précise, était quasiment aveugle. Au moment où elle s'est déplacée, elle m'avait demandé que je lui imprime le texte en très gros caractères. Et donc, ça a pris quelques reprises parce qu'elle me disait non, je peux faire mieux. Alors, évidemment, comme vous tous, j'ai été très touchée aussi par la disparition de Madame Rossignol et je trouvais normal de lui consacrer ce petit bout. On va la réentendre dans son témoignage.
C'est difficile d'imaginer aujourd'hui le choc que nous a procuré la lecture de ce texte. D'abord, le langage théâtral maîtrisé dans une langue qui est la nôtre. L'amour et la peine contenues dans les dialogues et les monologues. La déconstruction de la forme traditionnelle. Mais surtout, l'hommage fait aux femmes de chez nous.
Mais peut-être ignoriez-vous que ce livre de Mario Girard existait en audio. Oui, nous l'avons réalisé, produit, grâce également aux éditions de la presse qui avait édité en format papier ce livre de Mario. Et il est maintenant, c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que c'est un témoignage merveilleux de ce que cette pièce a pu représenter. C'est un témoignage qui célèbre cette place énorme que Les Belles-Sœurs a pris non seulement dans la dramaturgie, mais aussi dans la vie du Québec et des Québécoises. Permettez que je vous fasse entendre l'espèce de petit montage, comme une bande-annonce audio que nous avions fait à l'époque.
Vues et Voix et les éditions La Presse présentent Les Belles-Sœurs, l'œuvre qui a tout changé, de Mario Girard.
J'adore ce bingo.
Le surlendemain, je prenais l'avion pour Montréal. En effet, Brassard venait d'obtenir du Centre d'essai des auteurs dramatiques, le CEAD, l'invitation d'organiser une lecture publique de la pièce.
Lundi soir dernier, le Centre présentait la lecture d'une pièce en trois actes d'un jeune auteur montréalais, Michel Tremblay.
Je pense que je vais pouvoir tout meubler ma maison en neuf. Je vais avoir un toit, un frigidaire, un set de cuisine. Je vais avoir des chaudrons, une coutellerie, un set de vaisselle, salière, poivrière, des verres en verre taillé avec le motif caprice.
Les gens disaient, c'est quoi cette horreur-là? Vous n'avez pas honte de diffuser ça?
Michel Tremblay, l'homme qui sait mieux que quiconque parler à l'oreille et au cœur des comédiennes pour leur raconter leur univers de femme.
Tu me désappointes bien gros.
Mercedes Palomino tient à s'assurer de la présence de Denise Filiatro dans cette production afin d'attirer le public.
Il y a rien, Johnny, qui comptait pas mal. Il m'a fait perdre 10 ans de ma vie, le Christ. J'ai rien que 30 ans, puis je me sens comme si j'en aurais 60.
Je parle comme je peux, puis je dis ce que j'ai à dire, c'est tout.
Je suis Guylaine Tremblay. J'ai lu Les Belles-Sœurs dans ma chambre d'adolescente. Ce jour-là, j'ai compris que nous avions le droit d'être magnifiques. C'est un grand cadeau que tu m'as fait. Merci, Michel.
Narration, Mario Girard. Réalisation, Clotilde Seille. Musique, Daniel Bélanger.
La culture de mon pays vient de se lever et le monde entier prête l'oreille. Surtout la mère patrie.
Monsieur Vivaldi, maintenant, pour changer de sujet complètement, je voudrais vous parler d'Emma Lefort-Perrault. Ça s'est sorti dans un journal breton qui s'appelle Le Petit Bleu. Cette jeune femme, dont la famille a des attaches à Fréhel, vient d'obtenir une bourse pour l'encourager dans son envie de devenir violoniste. Alors, c'est quoi avec le livre audio? Quel est le rapport? Eh bien, c'est parce que sa maman, qui chantait des chansons brésiliennes, son grand-père, qui était pianiste, déjà tout cela est fort inspirant, eh bien, sa maman achetait des livres audio qu'ils écoutaient, figurez-vous, entre Saint-Malo et Paris lorsque la jeune fille allait prendre ses cours. Et elle dit « Quand j'ai entendu les 4 saisons de Vivaldi dans les contes musicaux de Marlène Jobert, j'ai été totalement passionnée et c'est comme ça que j'ai su ce que je voulais faire. Je voulais devenir violoniste professionnelle. » Marlène Jobert. Qui est Marlène Jobert, 79 ans. Elle consacre maintenant sa vie à la lecture de livres audio et plus précisément de contes en utilisant justement, comme on l'entend en ce moment, des compositions, des compositeurs en musique classique, notamment Vivaldi, bon, Beethoven, Mozart et tous les autres. Et pour en ce qui concerne Marlène Jobert, je voudrais vous dire que comme la plupart des célébrités qui ont été confinées, elle a décidé de se rendre utile, cette comédienne qui s'est occupée en lisant gratuitement des livres audio aux enfants sur de nombreuses plateformes avec cette voix absolument délicieuse qu'on lui connaît, une voix qui a bercé, moi, ma jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a quand même quelques années d'écart et je la retrouve avec plaisir nous racontant, par exemple, un extrait d'Alice au Pays des Merveilles.
La petite fille était maintenant dans une grande salle sombre, entourée d'une multitude de portes, toutes verrouillées. Elle trouva sur une table une minuscule clé d'or qui n'ouvrait que la plus petite des portes. Mais l'enfant était bien trop grande pour pouvoir sortir par celle-ci. Elle ne lui arrivait qu'à hauteur des mollets. Que faire ? Il y avait aussi un flacon de sirop rouge cerise sur lequel était écrit « Bois-moi ». La fillette ne put résister à l'envie d'y goûter. Et dès qu'elle en eut avalé une gorgée, elle se sentit rapetissée jusqu'à la taille d'une poupée.
« Eh bien voilà, je vais pouvoir passer par la petite porte.
» 79 ans quand même. C'est merveilleux. Ah, oh, Marlène Jobert. Et puis, j'avais aussi envie, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je vais vous parler de YouScribe dans une autre émission hein, de cette plateforme. Je voulais vous en parler, mais j'étais pas certaine que j'aurais le temps. Bon, ben là, je peux vous le confirmer, je ne l'aurai pas. Mais là, je ne peux pas passer sous silence le mois le plus cruel de Louise Penny, lu par Raymond Cloutier, qui est la voix officielle de Louise Penny. C'est lui qui lit absolument tous ses livres pour Audiolib. Le mois le plus cruel, nous sommes à Three Pines durant le week-end de Pâques. Tout le monde rajeunit le temps d'une grande chasse aux œufs lorsqu'une étrangère qui communique avec les esprits s'arrête au village. Les habitants n'y voient encore qu'une occasion de se divertir. Une séance de spiritisme est organisée dans la vieille maison abandonnée des Hadley. L'exercice destiné à libérer la demeure du mal qu'elle recèle est tragiquement interrompu par la mort d'une participante. Morte de peur, vraiment ? C'est ce qu'Armand Gamache va devoir découvrir avec son équipe. Alors que le printemps explose de vie, le mal, lui, reste tapi dans l'ombre et l'inspecteur-chef de la sûreté le sait mieux que quiconque. Je vous propose d'écouter le comédien Raymond Cloutier nous parler de Louise Penny et nous lire un extrait de « Le mois le plus cruel », une nouveauté parue le 20 mai dernier chez Audible.
Ces romans-là sont extrêmement joyeux et en même temps sombres. Au lieu d'être des intrigues mécaniques sur comment les meurtres se sont produits, son héros, l'inspecteur-chef Gamache, procède, lui, par une théorie sur la découverte des coupables qui est basée sur les émotions. Alors, pour lui, un meurtrier se développe à partir d'émotions refoulées ou d'émotions subitement contrariées et va passer à l'acte. Et donc, il va aller fouiller l'âme des personnages. Alors, c'est un personnage extraordinaire. D'une certaine façon, c'était vrai. Il était envahi par l'émotion, la tristesse et la mélancolie. Et un grand plaisir, la joie. Il était soulevé hors de lui-même. Cela transcendait la littéralité. Telle était la maison longue de Jane. Sa maison était devenue sa maison longue, où était présente chaque personne, chaque situation, chaque chose, chaque émotion. Gamache savait que le meurtrier se trouvait là, lui aussi, quelque part, sur ses murs. Si vous voulez vous faire raconter une histoire au lit avant de dormir ou dans l'auto, là, quand vous avez de longues distances à faire, vraiment, les romans de Louise Penny sur Audible, c'est vraiment la chose à faire. Parce qu'on est dans un univers où on décolle, c'est peut-être un peu moins fastidieux que de tourner les pages et on se laisse aller à se faire emporter dans une fiction de laquelle on va avoir de la difficulté à sortir.
Raymond Cloutier, comédien québécois qui enregistre quelque part, je ne sais où, mais je peux vous dire que c'est à la campagne avec vue, une vue imprenable sur un lac. En tout cas, oh là 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 là! Hein? Être confiné là, ça n'a pas dû être désagréable à ce moment-là. Mes amis, c'est la fin de cette première émission de reprise de des livres pleins les oreilles, animée et réalisée pour vous par Clotilde Seille. Une émission qui a été beaucoup consacrée à des voix sublimes et c'est exactement ce que je voulais et c'est aussi ce que sera cette émission tout au long de cette saison estivale. Beaucoup d'extraits, beaucoup de voix différentes. Aujourd'hui, vous avez pu apprécier, je l'espère, celle de Mathieu Farcy qu'on retrouve en grand nombre sur le site livreaudio.vuesetvoix.com qui m'a accordé une entrevue en première partie de cette émission. Et puis, nous avons entendu avec beaucoup d'émotion, nous avons retrouvé les voix de Monique Mercure, Michel Rossignol, Mario Girard, ça c'est dans le cadre du livre « Les belles-sœurs, l'œuvre qui a tout changé » qui existe également en audio sur notre site. Et puis, toujours avec de l'émotion, les voix de Michel Piccoli et Romy Schneider qui nous ont quittés. Romy Schneider, ça fait longtemps, mais Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, ça c'était beaucoup plus récent, et ça m'avait personnellement touché, mais je pense que ça avait touché pas mal de monde autour de moi, alors d'où cette large place que je leur ai consacrée dans cette émission. Merci aussi à la voix de Raymond Cloutier et à celle inimitable de Marlène Jobert que nous avons entendue aussi à Des livres plein les oreilles. Et puis en face de moi en régie, il y avait Jean-Sébastien Laliberté que j'ai retrouvé ainsi que vous-même avec une immense joie, un grand, grand, grand plaisir. Alors, n'oubliez pas que cette émission-là sera diffusée à partir du 11 juin à midi, si vous voulez l'écouter en direct sur notre radio, qui est donc canalm.vusezvoix.com. Maintenant, je le sais, je vais essayer de ne plus l'oublier. Sinon, vous pourrez l'écouter en balado comme vous voulez ou même à la télévision. Tout est possible. C'est Clotilde Seil qui vous salue et qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.